Radio Okapi. Journal présenté par Belinda Bosuma.
À la une, probable rencontre Tshisekedi Kagame bientôt sous les auspices de João Lourenço. Ceci ressort de la rencontre hier en Angola entre le président angolais et celui du Rwanda. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la poursuite des efforts du médiateur pour amener la paix et la réconciliation dans l'Est de la RDC notamment, explique le patron de la diplomatie angolaise. Élection 2023 en RDC, fin des audiences relatives au contentieux des résultats législatifs provinciales de Kinshasa. Les cours d'appel de Kinshasa, Gombe et Matete ont pris tous les dossiers en délibéré et les arrêts seront prononcés les 14 et 15 mars en cours. Et puis, l'invité de ce matin, Fabrice Muvunja, doyen de la faculté des sciences à l'Université catholique de Bukavu. Il revient sur le phénomène de la foudre devenue très fréquent dans le sud Kivu. Tenez, tout récemment, une dizaine d'écoliers sont morts foudroyés dans le territoire de Kabare. Madame, Messieurs, bonjour. Le président rwandais Paul Kagame accepte de rencontrer son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi afin de résoudre la crise entre la RDC et le Rwanda. C'est ce qui ressort de la rencontre hier à Luanda en Angola entre le président angolais João Lourenço et celui du Rwanda, selon le ministre angolais des Affaires étrangères, cité par l'agence de presse angolaise qui a livré cette information à la presse. Le lieu et la date de cette rencontre entre les deux chefs d'État restent à déterminer. Cette rencontre, explique le patron de la diplomatie angolaise, s'inscrit dans le cadre de la poursuite des efforts du médiateur pour amener la paix et la réconciliation dans la région, notamment à l'est de la RDC. René Capita.
D'après l'information livrée par le ministre angolais des Affaires étrangères, Tété Antonio, le lieu et la date de la rencontre annoncée entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame va être déterminée par le président angolais João Lourenço, le médiateur désigné par l'Union africaine dans la crise entre la RDC et le Rwanda, y compris dans son aspect lié au M23. Le Rwanda a accepté le principe déjà admis par la partie congolaise, selon lequel les délégations ministérielles vont travailler avant d'atteindre cette étape. Le voyage de Paul Kagame à Luanda intervient un peu moins de 2 semaines après celui effectué par Félix Tshisekedi dans la capitale angolaise. Lors de ce voyage, rappelle la diplomatie angolaise, il a été annoncé que Félix Tshisekedi avait accepté de rencontrer Paul Kagame pour discuter de la crise diplomatique entre les deux pays voisins et de la rébellion en RDC.
Pendant ce temps, sur le théâtre des opérations au Nord Kivu, l'enclave de pêche de Vichumbi dans le parc national des Virunga est aussi passée sous occupation rebelle hier lundi en fin de matinée. Vichumbi est situé à l'extrême est du groupement Mutanda, chefferie de Buito, une dizaine de kilomètres de la Ruindi. Selon les sources locales, les rebelles sont entrés sans combat dans cette agglomération localisée au bord du lac Édouard. Elle était déjà vidée à plus de 50% de ses habitants, rappelant qu'une accalmie a été observée toujours hier dans toutes les localités déjà occupées par le M23 dans cette zone. La même accalmie a aussi été observée sur l'axe Mueso-Pinga, territoire de Masisi. Les rebelles du M23 qui venaient d'occuper Kalembe, quelques kilomètres de Walikale, se seraient à nouveau repliés vers Kashuga dans le Bacha Limokoto. Par ailleurs, le commandant adjoint des forces de la MONUSCO de passage à Beni hier pour s'enquérir de la situation qui prévaut dans le Nord Kivu affirme qu'à ce jour, les casques bleus tiennent valablement la localité de Ruindi. Le général Kar Diouf ajoute que la MONUSCO joue pleinement son rôle dans le cadre de l'exécution de sa mission qui est de protéger la population à la limite de ses possibilités. Le général Kar Diouf est au micro de Sadiki Aboubakar.
Je suis là pour... Une raison principale, c'est qu'il y a eu des développements ces récents jours dans la zone d'action de Ruindi, mais également dans les environs de Nyanzale. Donc il était de mon devoir en tant que chef militaire de descendre sur le terrain et de m'enquérir de la situation. La situation, c'est que nos hommes tiennent valablement, si vous voulez, la localité de Ruindi en phase avec l'exécution de la mission du mandat. centré sur la protection des populations et de leurs biens. C'est le lieu de rappeler également que nous sommes une partie de la solution. Effectivement, nous tenons à jouer efficacement notre rôle dans cette partie. Mais rassurez-vous, en liaison avec les FRDC, nous sommes en train de conduire présentement des opérations qui, je suis persuadé que les résultats amélioreront, si vous voulez, la situation sur le terrain. Encore une fois, appeler la population à plus de sérénité, à plus de collaboration dans le partage des informations pour être efficace face à ces éléments, si vous voulez, indésirables. Encore une fois, je vais très ferme et être objectif. Je pense que la solution, elle est globale. La responsabilité, elle est partagée. Et jusqu'au moment où je vous parle, la MONUSCO joue pleinement son rôle dans le cadre de l'exécution de sa mission qui est de protéger les populations, bien entendu, à la limite de ses possibilités. Mais ces possibilités, nous la pousserons jusqu'à, si vous voulez, jusqu'au maximum. C'est tout ce que je peux vous dire concernant la posture et le comportement de la MONUSCO face aux événements actuels.
Et puis, il faut un suivi de proximité pour trouver la solution appropriée à la guerre du M23 au Nord Kivu. Cette recommandation est de la coordination provinciale de la société civile du Nord Kivu dans une déclaration rendue publique hier à Goma. La société civile du Nord Kivu propose également au gouvernement de mettre en place un système d'évaluation permanente de la situation afin de prendre les mesures qui s'imposent. Cette structure citoyenne exhorte le président de la République à s'investir personnellement dans le suivi de la situation sécuritaire précaire non seulement au Nord Kivu, mais également dans l'ensemble de la partie est du pays. John Banyene, président de la coordination provinciale de la société civile Force Vive du Nord Kivu, dans cet extrait choisi par Rosalie Zawadi.
Au regard des avancées rapides des terroristes du M23 RDF et des conséquences humanitaires alarmantes, nous recommandons à son Excellence Monsieur le Président de la République et Commandant Suprême de FRDC de dépêcher urgemment le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et le chef d'état-major général de FRDC avec pour mission de résider au Nord Kivu jusqu'à la libération totale de toutes les agglomérations sous le dictat de l'ennemi, mais aussi réorganiser le commandement des opérations militaires et les troupes pour la reconquête rapide des entités sous l'emprise du M23 RDF, de mobiliser les services de renseignement à identifier tous les officiers et agents des institutions de la République complices du M23 RDF et les déférer devant la justice pour des sanctions pédagogiques, d'interdire l'observance de tout cessez-le-feu et tout repli stratégique au FRDC.
La société civile invite également la population à soutenir les FARDC en dénonçant tout individu ou groupe d'individus suspectés de porter atteinte à la sécurité collective. Elle demande aussi aux humanitaires de porter assistance aux déplacés de guerre partout où ils se trouvent. Pendant ce temps, dans le territoire de Beni, nous sommes toujours au Nord Kivu, la société civile des Ringuettes y plaide pour le lancement des opérations militaires de grande envergure dans les entités situées à cheval entre Ringuettes au Nord Kivu et le territoire d'Irumu en Ituri. Selon cette structure citoyenne, les attaques des EDF sont devenues récurrentes dans cette zone malgré une forte présence des éléments de la force conjointe FARDC-UPDF. Elle demande également aux forces de la MONUSCO basées à Ringuettes de renforcer les patrouilles de combat dans cette zone afin que la population ait accès à ces champs. Marc Marofimbo.
La population du secteur de Benimbao se dit asphyxiée par les attaques récurrentes rebelles des EDF. À Ringuettes, par exemple, les habitants n'accèdent plus facilement à leurs champs au-delà des 3 km de la route nationale numéro 4, car les rebelles sont devenus très actifs dans la zone, rapporte la société civile. Il en est de même pour Oisha, Maimoya, Luna et dans plusieurs localités du territoire d'Irumu, en Ituri, dont Dalia, Mambelenga, Otmaber, Idohu, où les attaques des EDF se répètent depuis quelques semaines. Les derniers cas en date a coûté la vie à 6 agriculteurs la semaine dernière et dont les corps ont été ramenés à Ringuettes pour inhumation. La société civile demande à la force conjointe FRDC-UPDF qui est sur place de lancer des opérations de grande envergure contre les EDF. Fabrice Muhangi est un acteur de la société civile dans la région de Ringuettes.
Ce sont les affaires du Nord Kivu qui partent à Ituri qu'on nous remet encore ici en état cadavre. Nous avons besoin des opérations ou des patrouilles de combat contre l'ennemi. On ne fréquente plus nos champs, donc la population est en train de souffrir.
Les porte-paroles des opérations conjointes FRDC-UPDF dans la région indiquent que des troupes ont été déployés dans cette zone jusque dans le territoire de Mambasa en Ituri depuis la semaine dernière sans toutefois préciser la date du début des opérations. Le colonel Makazukai appelle tout de même la population à alerter les services de sécurité sur tout mouvement des hommes armés dans cette zone pour une réponse militaire rapide. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Dans la province de l'Ituri, les défis sécuritaires auxquels sont confrontées des jeunes filles depuis près de 7 ans entravent leur émergence. C'est ce qu'affirment des organisations féminines à l'occasion de ce mois de mars dédié à la promotion des droits des femmes. Cela ne leur permet pas d'accéder à l'éducation, tandis que d'autres sont exposées à des violences sexuelles et celles basées sur le genre. La MONUSCO, à travers sa section genre, organise quant à elle régulièrement des séances de renforcement des capacités des femmes et jeunes filles leaders pour aider à baisser la tension entre les communautés. Jean-Claude Loki.
C'est depuis 2017 que les territoires de Djougou, Maggi et Rumu sont affectés par des conflits armés à cause de l'activisme des groupes armés. Une situation qui perdure entraînant des conséquences graves, notamment dans l'encadrement des jeunes filles, dont certaines sont tuées, voire violées. La liste n'est pas exhaustive, comme le précise Sarafine Mouderoua, activiste des droits de la jeune fille.
Il y a l'agression sexuelle, il y a les mariages précoces, il y a la traitance des êtres humains. Les groupes armés et d'autres acteurs impliqués dans les conflits armés ici chez nous, ils utilisent l'exploitation sexuelle de la jeune fille comme arme.
Le rétablissement d'une paix durable passe aussi par une réconciliation sincère pour renforcer les relations intercommunautaires. Les femmes et les jeunes filles ont un rôle important à jouer pour arriver à cette cohésion sociale dans une province où le vivre ensemble est mis à rude épreuve à cause des conflits identitaires. Nathalie Koné est la chef de la section genre de la MONUSCO.
On a organisé, par exemple à Bogoro, un atelier où nous avons mis les femmes ensemble. Nous nous sommes dit, si nous voulons qu'il y ait la paix dans la province de l'Ituri, il faut que les femmes jouent leur rôle. Jouer leur rôle, c'est de comprendre que sans elles, on ne peut pas avoir de paix. Leur présence peut changer les choses.
Mais selon d'autres femmes interrogées, la solution durable passe par la restauration de l'autorité de l'État, principalement dans des zones sous le contrôle des groupes armés et où des exactions contre les femmes sont régulièrement rapportées. Bounia, Jean-Claude Loki, d'Ile Radio Okapi.
Justice, je vous le disais en titre, fin des audiences relatives au contentieux des résultats des élections législatives provinciales de Kinshasa, les cours d'appel de Kinshasa Gombe et Matete ont pris tous les dossiers en délibéré, respectivement vendredi et hier lundi. Les arrêts seront prononcés les 14 et 15 mars prochains. Voyons quelques points saillants de ces contentieux qui attendent le verdict avec vous, Jeff Ngoy Mulunda.
Le contentieux de Matete concernait 90 dossiers pour les circonscriptions des communes du Moamba Tchango dans une chambre unique. À la barre, experts de la CENI, candidats indépendants et des partis politiques devaient convaincre les juges sur leurs moyens développés avec procès-verbaux. Par exemple, élu avec 14 000 voix dans la commune de Kimbanseke, le député provincial de la FDCA, Pati Mubenga, était contesté deux fois par des candidats indépendants, dont Malassine Sapou, qui ne figurait pas sur la liste des candidats provisoires retenus par la CENI. Il a réclamé une correction pour erreur matérielle et la CENI lui faisait savoir qu'on n'était pas dans un contentieux des noms, mais plutôt des résultats. Presque pareil pour la cour d'appel de Gombe, mais avec plusieurs dossiers dans les circonscriptions de Lukunga et Funa. Parmi les dossiers traités, on peut retenir la requête du candidat du MLC David Nsala en contestation des députés élus dans la commune de Selembao. Élu avec 1449 voix selon son avocat, il réclamait l'invalidation de ses deux challengers, Patrick Dikouyi et Mao Ntouene.
Dans l'actualité aussi, incendie de l'entrepôt de la CENI à Matadi au Congo central. Tous les matériaux électoraux utilisés lors des scrutins combinés de décembre dernier sont partis en fumée. Le feu, dont l'origine n'est pas encore connue, s'est déclaré samedi dans la soirée jusque dimanche matin. En réaction, le secrétaire exécutif provincial de la CENI rassure la population. Selon Bernardine Kitondo, la perte de tous ces kits électoraux ne va pas affecter l'organisation des phases suivantes du processus électoral dans la province du Congo central. Nana Plurich Mambo.
À en croire les secrétaires exécutifs provinciaux de la CENI Congo Central, c'est aux environs des 18h le samedi 9 mars que l'entrepôt de la centrale électorale du Congo Central situé derrière la mairie de Matadi a pris feu. Les secours ayant intervenu tardivement puisque la ville de Matadi ne dispose pas d'un camion anti-incendie, tout ce qui s'y est trouvé n'a pas résisté au feu. Dispositifs électoraux de vote, batteries, urnes, isoloirs ainsi que plusieurs imprimés de valeur ont brûlé. Les camions anti-incendie du port de Matadi Gateway Terminal, sollicités par l'autorité urbaine et le numéro 1 de la CENI Congo Central, est arrivé avec 3 heures de retard à cause des embouteillages. Le feu qui avait été éteint le samedi a repris le dimanche matin, accentuant ainsi les sinistres. Bernardine Kitondo, secrétaire exécutif de la CENI Congo Central, affirme que les enquêtes sont en cours pour découvrir l'origine de l'incendie. Matadi, Nana Plurish Mambu, Radio Okapi.
Et puis, le mois de Ramadan a débuté hier pour les musulmans, mais que représente ce mois pour la communauté musulmane et quel comportement adopter en cette période? Cheikh Amourani Youma, représentant provincial de la communauté islamique au Maniema, explique au micro de Florence Kiza.
Le mois de Ramadan, c'est un mois de pardon, 5 mois de prière, 5 mois de partage et 5 mois d'amour pour les musulmans. 5 mois au cours duquel les musulmans sont appelés à poser de bons actes et à éviter de mauvais actes. 5 mois de bienveillance, 5 mois de piété. C'est dans ce sens-là que je résume le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, madame, c'est un mois de jeûne. C'est parmi les 4e piliers de l'islam. Tout musulman avéré est appelé à poser les actes de piété. Tout musulman avéré est appelé à respecter et à observer scrupuleusement les écritures du Saint-Coran qui nous interdisent à poser les mauvais actes et qui nous autorisent à poser de bons actes. Donc nous devons tout faire pour éviter les péchés tout au long du mois de Ramadan. Et nous l'appelons d'ailleurs, c'est un mois sacré pour les musulmans. Je dis à tous les musulmans de se pardonner mutuellement, d'être unis, d'être soudés et d'éviter tout acte qui peut nous amener à l'enfer.
Actualité internationale. Le Japon a signé un accord avec l'Organisation mondiale de la santé, OMS, pour fournir 8 millions de dollars aux hôpitaux égyptiens qui soignent les blessés palestiniens. Dimanche, l'ambassadeur du Japon au Caire a annoncé l'aide du pays en vue d'aider les personnes touchées à Gaza. La ministre égyptienne de la coopération internationale a salué l'action du gouvernement japonais.
L'invité.
Il nous vient du Sud Kivu. C'est le professeur Fabrice Muvunja, doyen de la faculté des sciences à l'Université catholique de Bukavu. Il revient sur le phénomène de la foudre devenue très fréquent dans le Sud Kivu. Il y a quelques jours, en effet, une dizaine d'écoliers sont morts foudroyés dans le territoire de Kabaré. Le professeur Fabrice Muvunja répond aux questions d'Emmanuel Elamegi.
Professeur Fabrice Muvunja, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Alors, il y a de plus en plus de cas de foudre ces derniers temps dans la province du Sud que vous, plus dans le secteur de Kabaré. Pour commencer d'abord, c'est quoi la foudre?
Oui, la foudre est un phénomène naturel qui concerne une décharge électrique qui a lieu entre deux nuages ionisés de charges différentes. Le plus grand problème, c'est lorsque la décharge atteint le sol. La foudre, c'est donc un phénomène naturel concerné par une décharge électrique.
Comment cela parvient-il à atteindre le corps humain?
Il faut d'abord dire que cette décharge électrique, elle est énorme. C'est un courant de haute tension. Et donc, lorsque c'est vertical et ça atteint le sol, la tendance, c'est que cette décharge électrique soit absorbée par la terre, parce que la terre est neutre. Et la terre peut séquestrer toutes ces décharges. Mais lorsque ça tombe sur un espace où il y a des gens, immédiatement, les gens qui sont au centre de gravité de cette décharge doivent être atteints. Alors, ils peuvent être atteints totalement ou partiellement. S'ils sont atteints totalement, c'est-à-dire que tout le corps est foudroyé, alors il va être calciné tout simplement, ou s'il est touché partiellement et que la charge est transportée jusqu'aux organes sensibles comme le cœur ou le cerveau, il va immédiatement perdre la vie, mais le corps ne sera pas trop déchiqueté ou calciné. Mais lorsque ça atteint les périphéries du corps, par exemple un doigt, par exemple un pied, et que ça passe superficiellement, à ce moment-là, on peut être blessé uniquement, mais on ne va pas en mourir.
Alors, comment prévenir ou éviter la foudre?
Bon, avant de parler de la prévention de la foudre, il faut que je revienne à votre question. Pourquoi est-ce qu'il y a assez de cas de foudre ici et en ce moment?
Oui.
Ici, d'abord, il faut savoir que le territoire de Kabaré, dans lequel nous retrouvons la ville ainsi que les périphéries, est enregistré dans le monde comme étant le deuxième lieu géographique le plus foudroyé dans le monde.
Dans le monde entier?
Oui, oui. Donc, la fréquence.
Les études ont été menées.
Oui, les études sont menées et même sur Internet, vous pouvez trouver cela. Donc, la littérature reconnaît que le territoire de Kabaré est le deuxième territoire dans le monde qui est le plus foudroyé après une zone géographique du Venezuela. Ça, c'est la première chose.
C'est dû à quoi, ça?
Bon, d'abord, c'est dû au fait que ces deux zones-là se trouvent en milieu tropical. En fait, les foudres sont plus fréquentes en milieu tropical qu'en milieu donc tempéré à cause de la différence de température.
Oui.
Mais En tant que pays, la RDC, c'est le troisième pays dans le monde le plus foudroyé. Ce n'est pas seulement en territoire de Kabare ni au sud Kivu, mais dans beaucoup de provinces de la RDC, comme le Kasaï, oui, sont également des sièges de foudroyement très fréquents.
Alors, comment éviter ça? Comment prévenir?
Ben, c'est simple, il faut des antifoudres ou des paratonnerres. Alors, comme nous sommes maintenant conscients que nous sommes dans une zone à très grande fréquence de foudroiement, alors nous devons nous protéger les maisons. Quand on construit les maisons, quand on construit les installations électriques, là, ça sont des cibles, hein. Les maisons qui contiennent des métaux, les installations électriques qui acheminent d'autres décharges électriques, donc qui créent un champ électrique aux environs, doivent être protégées par des paratonnerres. Il faut que nos électriciens, quand ils installent les lignes de transport de courant électrique, ils puissent intégrer des antifoudres. Quand nous construisons des écoles, des hôpitaux, des centres de santé, nous devons y introduire également des paratonnerres pour pouvoir arrêter cela. En effet, les physiciens ont démontré que tout conducteur métallique orienté vers le ciel et pointu a une capacité de séquestrer la charge électrique et de l'envoyer dans le sous-sol au lieu qu'elle se disperse dans la zone. Et il a été démontré que la puissance électrique de cette décharge, si à un seul éclair on maîtrisait cette charge, on la stockait dans une grosse batterie ou des gros condensateurs, oui, qui pourraient stocker cette énergie et la relâcher à un rythme contrôlé, c'est-à-dire dans des installations électriques, oui, l'éclair d'une seule seconde pourrait alimenter toute l'Afrique pendant une année en termes d'énergie. Et vous comprenez que c'est énorme, mais on n'y est pas encore.
Merci beaucoup, professeur Fabrice Mouvundia.
Et par ici, prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.